peut y aller. Donc bonjour, on va se retrouver pour cette étude biblique, pour cette question un petit peu qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est scientifiquement raisonnable de croire qu'un Dieu existe? Puisqu'on oppose souvent dans la société, dans le monde, on oppose souvent l'intellect, le raisonnement et puis la foi, les réponses scientifiques et les réponses spirituelles. C'est important de pouvoir se poser des questions, d'examiner un petit peu les choses. Donc je voudrais commencer en disant que le monde change en ce moment et qu'il change vite et que la population au milieu de laquelle nous devons, nous chrétiens, annoncer l'évangile, elle a beaucoup changé en 30-40 ans. Jusqu'à il y a 30-40 ans, les générations qui grandissaient, quand même dans une certaine majorité, grandissaient avec un enseignement religieux, avec un certain nombre de bases spirituelles, où on inculquait aux enfants la foi et certains modèles. Depuis donc 30-40 ans, la génération qui se lève, elle est de moins en moins éduquée sur le plan spirituel, religieux. Les bases ne sont plus posées dès l'enfance du tout pour une énorme majorité de nos concitoyens. Et ça, quand on fait de l'évangélisation dans les rues, par exemple, ou au travail, ou enfin là où on est, on s'en rend bien compte. Les gens ne savent plus rien de l'existence de Dieu. Et l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 15, nous encourage et nous dit, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc ça correspond aussi au message, comme je disais, qui était partagé ce matin par Farid, mais que le chrétien doit pouvoir répondre aux gens, aux objections, aux questions et aux interrogations qui sont souvent honnêtes, parfois qui sont déshonnêtes, mais en tout cas on doit pouvoir répondre avec douceur, avec amour, pour expliquer et montrer que les croyants ne sont pas des gens un petit peu retardés, retardataires, qui n'ont pas de réponse aux questions. Lorsqu'on parle de notre foi avec les gens qui nous entourent, la première question qui vient le plus souvent, c'est celle de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Après tout, est-ce qu'il y a un Dieu quelque part, ou est-ce simplement une invention des hommes pour atténuer leurs souffrances, leurs angoisses? Ce fameux opium du peuple, utilisé aussi en politique pour calmer les populations. Oui, la vie est dure, mais après la mort, ayez confiance, tout ira mieux. Voilà. Et puis avec toutes ces questions, s'il y avait un Dieu, pourquoi, etc., etc. Toutes les questions qui ressortent, hein, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi la guerre, pourquoi les choses climatiques. Enfin, bon, beaucoup. Mais en tout cas, la question première, c'est est-ce que Dieu existe ou pas? Donc face à cette question, on est parfois assez démunis pour répondre aux gens, tellement pour nous, chrétiens qui avons expérimenté Dieu, la réponse est évidente. C'est une évidence que oui, Dieu existe, je l'ai rencontré. Et donc, comme je l'ai rencontré, c'est une évidence telle que je ne me pose pas forcément la question, mais comment expliquer aux gens finalement qu'il existe? C'est comme si je vous disais, vous me posez la question, est-ce que tu es marié? Est-ce que ta femme existe? Ben oui. Mais alors voilà, ça n'a pas besoin d'être démontré, d'être prouvé, c'est une évidence pour moi. Et si je dois expliquer pourquoi, c'est toujours compliqué, si ce n'est que de vous montrer. Mais montrer Dieu, c'est compliqué aussi. Donc voilà. Donc c'est important de réinvestir ce qu'on appelle le champ de l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi, c'est l'explication de la foi et la défense de la foi. Et notre principale responsabilité, c'est de toucher les gens auprès desquels Dieu nous a placés, nos collègues, nos clubs de gym, nos familles, nos amis, ceux qu'on croise dans les rues, etc., pour pouvoir leur témoigner de ce qu'on vit, mais aussi avoir des arguments pour parler de l'existence de Dieu. Voilà, donc je reprends le titre. Est-il scientifiquement raisonnable de croire en l'existence de Dieu? Ou bien, dit autrement, la science nous oriente-t-elle vers la probabilité de l'existence de Dieu ou vers la non-probabilité de l'existence de Dieu? Je redis cette phrase, hein. La science nous oriente-t-elle vers la probabilité possible, donc, de l'existence de Dieu ou vers l'improbabilité totale de l'existence de Dieu? C'est un illustre français scientifique Louis Pasteur, un des fleurons de la science française, qui a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. » Et c'est vrai que souvent, certains vont utiliser des bribes de science pour démontrer que Dieu n'existe pas. Mais en fait, c'est souvent des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent et qui voilà, n'ont pas justement ont ce petit peu de science. Certains d'autres vont dire, hein, moins on a de culture, c'est la confiture. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Voilà. Et la science, c'est un petit peu ça parfois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de creuser un peu. Et donc Pasteur disait, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science l'en rapproche. Lorsque j'étais lycéen, personnellement, je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur ses origines, sur le monde naturel, sur le monde surnaturel et sur l'existence de Dieu. J'avais été éduqué dans la foi catholique, mais à l'adolescence, ce n'est pas vers la religion que je voulais me tourner. Je considérais la religion comme une croyance qui était trop une croyance sans preuve, comme un système qui certes était bien organisé, mais qui ne pouvait pas répondre à des questions sérieuses, j'allais dire. Alors j'ai exploré personnellement deux autres voies qui, à mon sens, semblaient plus fiables, plus intéressantes et méritaient mes recherches. L'une de ces voies, c'était les sciences occultes, les sciences paranormales, méditation, tarot, astrologie, etc. J'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et l'autre voie, ça a été de m'orienter vers des études à l'opposé, plus scientifiques. À l'époque, je parle d'une époque révolue, même si je suis encore très jeune, à l'époque, au lycée, on avait la possibilité de choisir une voie qui était presque exclusivement scientifique. Donc après une classe de seconde que j'ai fait, qui était très orientée vers la physique, la science physique, et j'ai fait ensuite une première et une terminale qui était, elle, centrée sur tout ce qui est chimie, biochimie, microbiologie, ça m'a permis d'avoir un bac scientifique et de pouvoir ensuite entrer en médecine. L'une des grandes questions que je me posais, c'était, avant même de savoir s'il y a un Dieu, de savoir s'il y a quelque chose de possible au-delà du visible et du palpable. Parce que je me disais, avant de savoir si Dieu existe, puisque Dieu est invisible, est-ce qu'il est possible qu'il y ait de l'invisible ? Ou est-ce que tout ce qui existe est visible ? Est-ce que le monde, est-ce que toutes les réalités sont forcément visibles ? Parce que si j'arrivais à savoir que toutes les réalités sont visibles, de fait, Dieu étant invisible, ça veut dire que Dieu n'existe pas et que ce n'est pas possible. Donc c'était une des premières questions. Alors certes, il y avait bien l'air que je ne pouvais ni palper, ni voir, ni sentir, ni ressentir, etc. Mais je savais que l'air n'était pas rien. L'air est composé de molécules. Beaucoup de molécules d'azote, un peu de molécules d'oxygène et un petit peu de gaz carbonique et des gaz rares. Donc je savais que même si mes yeux, qui sont faits pour voir des choses plus grosses, j'allais dire, ne les voyaient pas, soit un microscope très puissant, soit des expériences physiques ou chimiques pouvaient me révéler la présence de l'oxygène. D'accord ? Donc j'avais possibilité d'appréhender des choses que mes yeux ne voyaient pas d'autre façon, par la science. Mais l'air, donc, je savais que c'est quelque chose qui, même si je ne le vois pas, existe. Mais ça ne suffisait pas à démontrer que je pouvais pas le voir, que l'invisible pouvait exister. Et puis un jour, en cours, si je me souviens bien, de chimie, en fait, on a étudié la fameuse formule d'Einstein, que Einstein a découvert en 1905, qui est la formule de la relativité, en fait, et donc qui est E égale MC2. Alors pour ceux qui sont présents à l'étude biblique cet après-midi, est-ce que vous avez des souvenirs, levez la main, de ce que c'est que ça, E égale MC2. D'accord, c'est un petit minimum, hein, un tiers, disons, un petit tiers des présents. Donc on va reprendre. Alors, j'en profite, s'il y a des questions, vous les notez, vous les gardez, on aura des moments de questions, il y aura un micro qui circulera. Hein. Donc, E égale MC2, c'est une démonstration d'Albert Einstein, et en fait, je vais simplifier au maximum, mais donc c'est la théorie de la relativité, et donc qui dit que E, c'est l'énergie, c'est égal. Donc, et quand en physique ou en chimie on met une égalité, c'est vraiment important. c'est égal à m, la masse, qu'on multiplie par c, la célérité au carré, la vitesse de la lumière au carré. Donc, on va juste un petit peu détailler ça. Donc, c, le mot c, là, c'est la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Et donc, l'énergie, c'est égal à de la masse qu'on a multipliée par de la vitesse. Ça, c'est une égalité. Et donc, si on la retourne, si on retourne cette formule, ça veut dire que la masse d'un objet, cet objet que je tiens, il a une certaine masse, cet autre objet a une autre masse. Donc, pour qu'il y ait une masse, il faut un objet visible, palpable, que je peux toucher, que je peux mesurer, que je peux peser. Donc, cet objet visible, il est égal à une certaine somme d'énergie divisée par la vitesse, ralentie. Si je le caricature, la matière, c'est comme de l'énergie ralentie de façon extrême. D'accord ? C'est-à-dire que cette formule, en fait, met une équivalence entre la masse d'un objet visible et l'énergie qui est invisible. Et donc, cette formule me démontrait qu'effectivement, un monde invisible peut exister en dehors de la matière, puisque ce que je vois n'est juste que de l'énergie et que l'autre coefficient, c'est de la vitesse. C'est bon ? Bon. On va avancer un peu plus. C'était la démonstration, en fait, que ce que l'on voit et ce que l'on touche aujourd'hui n'est que relatif. Que ce n'est qu'un état actuel de la matière, le micro là, ce micro là que je vous montre, c'est qu'un état relatif. Vous voyez un micro, effectivement il existe, il est composé de molécules, d'atomes, etc. Mais c'est du physique, c'est de la masse, mais que ça, en fait, c'est très relatif. Et je pourrais vous mettre, entre guillemets, à côté, l'équivalence d'un micro, mais invisible. C'est-à-dire que c'est que l'énergie, ça ce n'est que de l'énergie ralentie. Et si je l'accélérais à la vitesse de la lumière au carré, il n'y aurait plus de matière. Ce serait que de l'énergie. Voilà. Donc, ce n'est qu'un état actuel de la matière, ce qui est visible, et qui n'était peut-être pas existant sous cette forme depuis toujours. S'il y a une possibilité d'équivalence, je le vois aujourd'hui comme ça, mais peut-être qu'hier, ce n'était pas comme ça. D'accord ? Et donc, ce n'est pas forcément sous cette forme de façon éternelle. En fait, pour moi, c'était le premier pas scientifique vers l'hypothèse possible, ou probable, en tout cas possible, que ce que je vois vient peut-être de quelque chose que je ne vois pas, mais qui est extrêmement puissant. D'accord ? Je redis cette phrase. En fait, cette formule montre que la masse visible, donc un objet que je vois, vient peut-être de quelque chose que je ne vois pas, c'est-à-dire de la pure énergie, mais qui est une réalité, mais non visible, non palpable, qu'aucun microscope ne peut voir, contrairement aux molécules, aux atomes, etc. Mais qui est très puissant, puisque le coefficient, c'est 300 000 au carré, j'ai pas fait le calcul, mais c'est pas mal. En fait, j'ai découvert bien plus tard, quand je suis devenu chrétien, que ce que je viens de dire là, c'est exactement un verset de la Bible qui a été écrit il y a 2000 ans dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3. Il est dit, ce qu'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ça, c'est Hébreux 11, 3. Donc, c'est la formule de la relativité, quelque part, mais spirituelle. Hébreux 11, 3, ce qu'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et ça, c'est tout à fait en conformité avec cette formule de la relativité que je viens de vous montrer. C'était pour moi une première preuve, et là quelque part scientifique, qu'il n'est pas impossible ni même insensé que le monde visible que je vois puisse venir de l'invisible. Et c'est ainsi que j'ai continué personnellement mon cheminement d'adolescent jusqu'à découvrir la foi en Dieu à l'âge de 18 ans, juste après mon bac. Alors, on va parler des origines de l'univers. Donc, la science, depuis ces années où je passais mon bac, a bien évolué et elle nous a réservé d'autres belles surprises. À la fin du Moyen-Âge, avant le savant Copernic, tout le monde, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était le centre de l'univers. Donc le modèle, mettez-vous ça en tête, le modèle que les hommes, les humains avaient, c'était la Terre au centre de l'univers, le Soleil et les planètes qui tournent et les étoiles qui tournent autour de la Terre. Grâce à Copernic et à d'autres, il a bien fallu se rendre compte, et ça a été difficile, que ce n'était pas la Terre le centre du monde, que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était l'inverse. Que c'était en fait le Soleil qui était au centre du système solaire et que c'était bien la Terre qui tourne autour. Ce qui a amené à réaliser que notre système solaire, c'est-à-dire le Soleil avec ses quelques planètes autour, dont la Terre, n'était aussi qu'un petit système au sein d'une grande galaxie. Comment s'appelle notre galaxie ? La Voie lactée. C'est quoi une galaxie ? C'est un ensemble de soleils avec des planètes autour. Mais la Voie lactée, c'est des milliards de soleils, d'étoiles. Donc notre Voie lactée, notre galaxie, donc on a notre système solaire, notre soleil et nous tournons autour, mais ce soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie. Et notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies. Donc on commence déjà à perdre pied là au niveau de la taille de l'univers, de ce que c'est. Vous imaginez, notre Soleil, qui nous semble déjà important, c'est une petite étoile d'ailleurs dans notre galaxie, la Voie lactée, et la Voie lactée n'est qu'une petite aussi galaxie au milieu de milliards d'autres galaxies. À côté de ça, depuis toujours, on pensait que l'univers était fixe et immuable. C'est-à-dire, on se levait et on n'était pas étonné tous les matins de voir le soleil, on n'était pas étonné de voir l'étoile du berger, Vénus, on n'était pas étonné de voir les constellations, etc., des étoiles, parce que ça a été toujours comme ça et ce sera toujours comme ça, et voilà, c'est fixe, c'est immuable. En fait, l'univers dont on pensait était là et rien n'évoluait. Mais depuis, dans notre génération, bien d'autres découvertes ont été faites par des chemins différents. En fait, il y a eu deux grands chemins d'exploration de l'univers. Il y a eu le côté que je dirais surtout théorique, les physiciens, les mathématiciens, qui par des calculs, entre autres ceux d'Einstein et d'autres, calculaient pour arriver à connaître l'univers. Et puis, l'autre voie, c'était les astronomes, qui, eux, regardaient avec leurs grosses lunettes vers l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens, physiciens et les astronomes sont arrivés aux mêmes conclusions, heureusement. Et ces conclusions, c'est qu'on sait, par exemple, que l'univers, en fait, est en constante expansion. L'univers n'est pas quelque chose de figé, l'univers est en expansion, il est en train de grandir, de grandir, de grandir. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres, les étoiles s'éloignent les unes des autres, etc. On est en expansion. Ok ? Et cette expansion, on sait qu'elle existe depuis un moment précis, qui est en fait une explosion primitive. C'est-à-dire qu'on là, on est nous en cours d'exploration d'un univers qui existe et qui est en train de se dilater, d'être en expansion. Mais on sait que cette expansion, elle n'est pas partie de rien. Elle n'est pas, enfin, elle n'est pas partie de rien. Si, elle est partie d'un moment, d'une explosion primitive. C'est-à-dire le fameux Big Bang, si vous voulez, dont on parle. Voilà. Le Big Bang, donc, c'était il y a 13 ou 14 milliards d'années. En fait, il y a eu un commencement. Et donc, on sait que l'univers, aussi immense qu'il est, où on est, si on raisonne au niveau de taille, en termes de taille, on est totalement dépassé, hein, puisque notre galaxie est déjà immense, mais c'est qu'une petite galaxie parmi des milliards d'autres, tout ça en expansion. Donc, mais l'univers a commencé à partir d'un Big Bang, il a eu une origine et il aura une fin. On sait déjà que notre univers aura une fin. Alors, plus que ça, on est capable de remonter dans le temps et d'examiner l'univers juste après sa création. Donc là, il y a une petite diapo qui essaie de résumer un peu ça. Donc vous voyez là à gauche un point d'interrogation avec le Big Bang, avec une espèce d'explosion là. L'explosion qui part d'un petit truc là et qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Hein, donc avec toutes sortes là d'atomes, de molécules qui se forment, etc. Enfin, et puis petit à petit, on en arrive aux étoiles, on en arrive aux galaxies, et l'univers est donc envoyé, ça part de là, et c'est comme un cône, c'est-à-dire que là, ça n'a pas fini de grandir, ça continue à grandir, à grandir, à grandir. Alors, on ne va pas aller trop vite, on fait les choses dans l'ordre. Et donc, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un commencement. L'univers n'est pas quelque chose de stable. Il y a eu un commencement à notre univers, et ça, déjà, c'est intéressant. Parce que ça pose des questions, effectivement, que l'univers ait eu un commencement. Sur notamment le sens et sur le pourquoi du comment, etc. Et donc, on sait qu'il aura une fin. Et donc, je disais, on est capable de remonter dans le temps, c'est-à-dire que si on se situe, nous, par là, mettons. On est capable, par de l'observation et par des calculs, de remonter, de remonter, de remonter, de remonter, parce que ce qui nous intéresse, c'est de remonter le plus près possible de ce point-là, bien sûr. D'accord? Du point du Big Bang, du point initial. Et donc, on est capable de remonter vers la création de l'univers, tout près de sa création, en fait. Ce qu'on découvre est magnifique. Au début de son apparition, la matière qui est actuellement contenue dans l'univers entier était contenue dans un noyau pas plus gros que le point d'une épingle. Donc imaginez, alors là, c'est là où il faut faire un peu d'imagination. Imaginez moi, imaginez vous, imaginez notre salle. Imaginez la ville de Nîmes, imaginez la France, imaginez la Terre, imaginez tout le système planétaire du système solaire, imaginez toutes les étoiles bien plus grandes de la Voie lactée, imaginez les milliards de galaxies. Vous voyez toute cette masse, c'est quelque chose qui est d'une taille mais énorme quoi, c'est énorme. Et bien tout ça, on sait qu'à l'origine, juste au moment du Big Bang, ça avait la taille à peine d'une pointe d'aiguille. C'est-à-dire que tout était concentré. Vous imaginez, vous ramenez hein, la Lune, le Soleil, tous ensemble, vous ramenez toutes les étoiles, vous concentrez tout ça, vous le quichez, vous le quichez, vous le quichez, vous le quichez, comme on dit dans le Sud, hein, vous l'écrasez, vous l'écrasez, vous le condensez, vous le condensez le maximum, et en fait, vous arrivez à condenser jusqu'à la taille d'une pointe d'aiguille. C'est incroyable. Sauf que cette pointe d'aiguille, vous imaginez l'énergie. Je vous rappelle tout à l'heure la loi, hein, entre l'énergie et la masse. Donc là, la masse, ben, elle devient, hein, une pointe d'aiguille, ça pèse rien, quelque part. Mais vous imaginez donc l'énergie qui est là. Non, non, parce que ça, c'est autre chose. La puce, ce n'est pas, tu ne prends pas de la matière que tu comprimes, tu comprimes, tu comprimes, tu comprimes. Tu arrives à mettre des informations, mais l'information, elle est virtuelle, elle n'est pas matérielle. Donc non, c'est vraiment la matière, c'est-à-dire tu comprimes ça, tu comprimes ça, tu comprimes ça, tu comprimes la Lune, tu comprimes toutes les étoiles, tu comprimes toutes les galaxies, tu comprimes, tu comprimes, tu comprimes, et tu arrives à un petit point. Mais à une énergie, je veux dire, les bombes atomiques à côté de ça, c'est même pas des mouches, quoi, hein, c'est rien, c'est rien de rien de rien. Donc, en fait, je parle là d'une pointe d'épingle, mais on arrive à remonter à la dimension vraie de cette pointe d'épingle. Et en fait, la dimension de cette pointe d'épingle, c'est des milliards de fois plus petit qu'un grain de sable. C'est ça la pointe d'épingle dont je vous parle. Donc l'univers entier, à l'origine, vous voyez un grain de sable, ben, vous le divisez en milliards de fois, et vous arrivez au volume de l'univers, à son origine. Donc vous voyez que le Big Bang, ça a été une explosion faramineuse, parce que ça a donné petit à petit, en se développant, en s'éloignant, etc., en se modifiant, ça a donné tout ce qui existe. Donc ça signifie que la matière de la Terre entière, de la Lune, de toutes les planètes, du Soleil, de notre galaxie, la Voie lactée, des autres milliards de galaxies, composées elles-mêmes de milliards d'étoiles, souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes que notre Soleil, tout cela était concentré et tenait dans un point invisible à l'œil nu. Mais avec une énergie, une densité et une chaleur incroyables. À cet instant, c'est à cet instant-là, au moment du Big Bang, c'est à ce moment précis, quand l'univers était comme ça, comme un tout petit rien du tout, j'allais dire, c'est à ce moment-là que l'espace et le temps ont commencé. Le temps a commencé à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas de temps. Avant, il n'y avait pas d'espace. C'est la science qui le dit, tout ça. Je vous fais grâce de tout, mais voilà. Non, donc le temps a commencé à ce moment-là. Il n'y avait pas de temps avant, puisqu'il n'y avait pas d'objet qui mesure le temps, etc., etc. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de... Et l'espace aussi a commencé à ce moment-là. Quand on parle de l'espace, nous on voit l'espace, on va dans l'espace, mais à cette époque-là, l'espace n'existe pas. Il n'y a pas d'univers, il n'y a rien. Enfin, je vais un peu trop loin, pardon. Donc, l'espace et le temps commencent à ce moment-là. Imaginez ce petit point invisible qui est d'une énergie, voilà. Puis ce noyau primitif a commencé à se dilater de plus en plus et progressivement se sont formées les galaxies, notre Soleil, la Terre, que nous connaissons bien. Et là encore, je voudrais nous faire remarquer qu'on n'est pas très loin de ce que déclare la Bible. Je vous lis dans Genèse 1, et dans les versets 1 à 3, au commencement, donc déjà première phrase de la Bible, au commencement, donc la Bible nous confirme, ou plutôt la science confirme, qu'effectivement il y a eu un commencement. D'accord ? Ça paraît tout bête, mais c'est drôlement important ça. Il y a eu un commencement. L'univers n'a pas été toujours là. Il y a eu un commencement. Et la Bible nous disait déjà, depuis 2000 ans, et sans l'apport des sciences, au commencement. Et au commencement, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, sous-entendu commencement de l'univers, puisque c'est les cieux et la terre qui apparaissent. Donc d'abord les cieux, puis la terre. Donc les cieux, sous-entendu l'espace, l'univers, qui est en train de se dilater, de se former. Mais la Bible nous dit au commencement, création des cieux et de la terre, mais au commencement, Dieu. Donc là, la Bible amène l'hypothèse Dieu, en disant effectivement, il y a eu un commencement, mais quelque part avant ce commencement, il y a Dieu, puisque ce commencement vient de Dieu. D'accord ? Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et Dieu dit, comment ça commence ? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ça aussi, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette histoire de Big Bang, à cette explosion de lumière, mais incommensurable, qu'on ne peut même pas imaginer, qui nous dépasse complètement, qui a créé, qui a commencé à créer. Au commencement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que la lumière soit. Mais quand vous regardez cette diapo là, hein, du Big Bang, voilà, c'est avec raison que ils ont mis ça. Hein. C'est vraiment, c'est que de la lumière, quoi. C'est criant de lumière et ça déborde de lumière avant de parler de matière. Donc, même si la Bible, et ça je vous mets en garde, je nous mets en garde, il faut faire très attention, la Bible n'est pas un livre de science, donc on ne peut pas faire des correspondances entre la Bible et la science de façon précise, notamment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dans la création, les animaux, les plantes, les humains, etc. La Bible n'est pas un livre de science, d'accord ? Mais la Bible donne des pistes, donne des images, donne une explication que la science, dans certains domaines, là on est en train de le voir, vient non pas contredire, mais vient corroborer. À un non-scientifique, vous dites, mais l'univers n'a pas toujours existé, la Terre n'a pas existé, c'est Dieu qui l'a créé. Il va vous rironner, il ne sait pas. Maintenant que la science nous dit, oui, non, il y a eu effectivement un temps où tout ça n'existait pas, c'est parti d'un petit point minuscule, avec une énergie qu'on ne peut pas imaginer, et ça a donné tout ça. Et c'est encore en train d'évoluer. D'accord ? Donc c'est pas... Vous voyez bien que là, tout ce qu'on étudie là, tout ce que je décris comme conclusion scientifique, ça ne contredit pas du tout le message biblique. D'accord ? Donc, quelle explosion s'est produite ? Que la lumière soit ? Quelle explosion ça a dû être, ce fameux Big Bang ? Donc, même si la Bible n'est pas un livre de science et que son but n'est pas de nous révéler scientifiquement la création, c'est assez étonnant de voir ensuite comment, à l'image de ce que la science de l'univers nous décrit, les trois premiers chapitres des Écritures décrivent une création progressive et évolutive, en passant par les astres, la terre, l'eau, les continents, puis les plantes, puis les animaux, pour aboutir au sommet de la création dans un être pensant qui est l'humanité. Un autre point intéressant, donc là je vous ai marqué le verset biblique, un autre point qui est intéressant, c'est un autre fait relativement incroyable. C'est ce qu'on appelle le fine tuning. Donc c'est un mot anglais, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, c'est le réglage fin. Le réglage fin. Le fine tuning, c'est quelque chose donc qui est aussi démontré, hein, qui décrit en fait que les lois physiques qui organisent et régissent la matière devaient être réglées de manière très fine pour qu'un monde cohérent puisse exister. Puisque le monde là qui s'est développé à partir de ce petit point invisible, il est cohérent. Les molécules se sont formées, les atomes, les molécules se sont formées, les planètes se sont agrégées, les étoiles font leur travail interne, enfin bon, tout ça, il y a des règles, il y a des lois de la physique. Eh bien, ça a été démontré qu'il fallait que ce réglage de ces lois physiques soit très 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 fin pour que qu'un monde cohérent puisse exister. Sinon, ça aurait été une anarchie complète, c'est-à-dire la matière, mais qui n'est pas de la matière, quoi. Une anarchie totale de la matière. En fait, si les constantes physiques avaient été très très peu différentes, le résultat, c'est que l'apparition, par exemple, de la vie aurait été impossible. Il a été ainsi estimé que l'univers n'avait qu'une chance sur 10 puissance 123 d'être ordonné de façon aussi précise. Sans un tel ajustement, il n'y aurait pas de vie possible. Alors, cet ajustement, c'est, j'ai dit, 1, 10 puissance 123. Pour vous le dire autrement, hein, c'est une chance sur 10 puissance 123, ça signifie une chance sur 10, une chance sur 10 avec 123 zéros derrière. C'est le chiffre que je vous ai mis là, que je vous ai affiché. Ça, c'est la probabilité. Je ne sais pas à combien le loto fonctionne, hein, le loto français, je ne sais pas combien il y a de gens qui jouent, mettons un français sur deux, admettons, ça fait, vous avez une chance sur 30 millions, en gros, de gagner au loto si vous jouez. Une chance sur 30 millions. Là, je suis incapable de vous dire le nombre que c'est. c'est une chance sur 10 avec 123 zéros derrière. Pour que, finalement, les lois de la physique se fonctionnent bien et que tout puisse se régler pour que tout ça aboutisse à l'apparition de la vie. Par exemple, nous savons que si nous étions, pour vous dire comment c'est réglé, si nous étions plus proches de 5% du Soleil, si la Terre était plus proche de 5% du Soleil, on serait cuit. On sait aussi que si nous étions éloignés de plus que 5% du Soleil, on serait congelé. Non, ça a été réglé, enfin ça a été. Là, je vais plus loin, mais les choses sont réglées, par hasard, peut-être, pour que, avec cette possibilité de risque-là ou de chance-là, ça marche. Vous enlevez un seul zéro, ça ne marche plus. Donc, vous imaginez ? Donc, voilà. 10, 123 zéros derrière. Que ça a été du hasard. Voilà. 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 Tout à fait. Quand on dit c'est par hasard. Voilà. Ben, le hasard, on peut le chiffrer. Le hasard, c'est une chance sur ça. Alors, avançons encore sur une autre question. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui. C'est de dire, bon, ok, donc tu nous as remonté, ou la science nous remonte l'univers jusqu'à rien du tout, presque rien, pas rien, mais presque rien, trois fois rien, j'allais dire, et comme dirait un humoriste français, je ne sais plus comment il s'appelle, trois fois rien, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Raymond DeVos, merci. Donc, si la science et la Bible sont relativement d'accord pour nous dire que l'univers a eu un commencement, la grande question reste donc, mais d'où vient l'univers ? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement ? Alors, pour être juste avec la science, je dois dire que certains scientifiques imaginent plusieurs choses. Il y a par exemple l'imagination d'un univers fluctuant. C'est-à-dire de dire, oui, effectivement, l'univers qu'on voit gros comme ça, si on remonte, il était petit, 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 mais avant, il revenait d'un grand, 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 grand. Et puis, donc, avec une fluctuance des univers, comme ça. D'accord ? Comprenez ? Donc, il y a eu l'apparence d'un commencement, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de commencement. C'était que la suite d'un univers d'avant, et puis d'un univers d'avant, puis d'un univers d'avant, puis d'un univers d'avant, comme ça, éternellement. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire d'un univers qui, tour à tour, se dilate, se contracte, etc. Mais cette hypothèse qui est séduisante pour les non-croyants, parce que pour un non-croyant, le fait qu'il y ait un commencement, c'est gênant. C'est très gênant. Très, très gênant, parce que ça pose la question d'avant le commencement. Donc cette hypothèse-là, elle ne satisfait pas la majorité des chercheurs, qui ne trouvent aucune évidence pour la confirmer. Donc dans l'état actuel de la science, il n'y a aucune preuve, c'est une hypothèse. Les savants se creusent la cervelle pour essayer de trouver différentes solutions. Celle-là, il n'y a aucune évidence, il n'y a pas le moindre début de commencement d'une preuve de ça. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas l'avant-commencement. Un univers avant, ça ne commence pas. On va préciser encore un peu, hein, mais voilà. Et en revanche, il y a beaucoup d'objections qui s'opposent à cette théorie-là. On n'a pas de preuve ou le début de commencement de preuve que ça pourrait être vrai, mais en revanche, on a beaucoup d'objections qui pourraient dire que non, c'est pas possible. Ça n'a pas été un univers fluctuant. Alors, il y a une autre théorie qui est avancée, dont on parle de temps en temps, qui est la théorie des multi-univers. C'est-à-dire qu'en fait, que notre univers, même si je l'ai décrit comme totalement incommensurable, hein, et en croissance, n'est qu'en fait lui-même qu'un univers parmi des milliards et des milliards d'univers. Et que donc, Effectivement, s'il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'univers, il se peut qu'un jour, par hasard, on arrive sur cette chance sur 10 avec 123 zéros derrière. D'accord ? Vous voyez ? Puisqu'il y a tellement d'univers qu'un jour ou l'autre, on va finir par arriver à ce que cette chance arrive. Quelqu'un va gagner au loto un jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ça, c'est la théorie des multi-univers. En disant, ben voilà, effectivement, ça nous gêne le commencement, enfin ça nous gêne ou ça nous interpelle le commencement. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu de commencement, peut-être que c'est un univers qui se dilate, se contracte, mais on n'en a aucune preuve et il y a des objections. Ou alors, il y a des multi-univers, c'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas les compter tellement il y en a. Voilà. Mais d'abord, il n'y a pas de preuve non plus de ça, du tout. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu les autres univers. Et puis, ça n'apporte pas grand-chose à notre réflexion, quand même, d'aujourd'hui. En fait, donc on va faire un point un petit peu de plus. Un point en plus qu'il faut rajouter au raisonnement, c'est que mathématiquement, on peut remonter. J'ai parlé de remonter physiquement jusqu'au petit point. Là, vous savez, donc ça, c'est quelque chose entre guillemets de visible, d'accord, dont j'ai parlé, de physique. Mais par les calculs mathématiques, on peut remonter dans le temps jusqu'à une fraction de seconde après l'apparition de l'univers. C'est-à-dire que dans cette remontée que je vous ai montrée tout à l'heure, on se dit, mais c'est quoi? C'est un an après la création, c'est etc. En fait, non, c'est une fraction. On peut remonter tellement proche du Big Bang que c'est une fraction de seconde. En fait, cette fraction de seconde a été en gros mesurée. On peut remonter à environ un centième de milliardième de seconde après le début du commencement. Donc voyez où la science remonte. Jusqu'à un centième de milliardième de seconde après le début du commencement. D'accord ? Donc le Big Bang commence et un centième de milliardième de seconde, on sait ce qui se passe. Donc c'est, j'allais dire, nous on dirait à notre échelle, on dirait, ben oui, tout de suite, on le sait. Non, c'est pas tout de suite, scientifiquement c'est pas tout de suite. C'est un centième de milliardième de seconde après. Et là, on sait. Là, on sait et on peut savoir ce qui existait, comment ça marchait, les lois, les machins, le temps, tout ça, on le sait. Un centième de milliardième après le début. Mais, on ne peut pas remonter avant ça. Impossible. Et la science a démontré que c'est impossible de remonter avant ça. En fait, les scientifiques là, se heurtent comme une espèce de mur infranchissable. Alors, ce n'est pas un mur philosophique, ce n'est pas un mur religieux, c'est un mur scientifique, c'est un mur de la physique, des mathématiques, de la physique. Et en fait, ce mur, il a un nom, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Monsieur Planck était un scientifique qui a découvert le mur de Planck. Et au-delà, donc, si on veut basculer de l'autre côté du mur de Planck, c'est-à-dire avant un centième de milliardième de seconde, en se disant, moi, je veux aller un peu avant encore, on ne peut pas. C'est impossible. Ça bloque. Ça bloque parce que la science, là, elle ne marche plus. Elle ne fonctionne plus, la science. La physique, les mathématiques ne marchent plus. C'est un petit peu, j'ai noté ça, au-delà du mur de Planck, donc les lois de la physique et des mathématiques ne sont plus valables. Les lois universelles qui s'appliquent tout le temps, d'un bout à l'autre de notre immense univers, là, elles ne fonctionnent plus. C'est comme si, ça c'est moi qui le dis, c'est comme si une personne surgissait tout à coup, au seuil de notre univers, sur le point de voir le jour, et brandissait une pancarte en disant « Au-delà de cette limite, votre science n'a plus cours. » Bon, ça c'est moi qui le dis, hein, j'image. Vous comprenez ? On remonte, puis là, ça ne marche plus. C'est comme si la science n'est plus utile parce qu'elle ne marche plus. Alors, on va aller plus loin, on fera les questions après. Ouais, notez-les bien vos questions, hein. Parce que c'est important d'avoir un peu toutes ces notions pour arriver à saisir. Voilà, il est au Big Bang, il est Le mur de Planck, c'est un centième de milliardième de seconde après le début du Big Bang. Donc on y est presque, hein, je veux dire, c'est rageant, quoi, quelque part. C'est vraiment rageant. Mais là, on bascule dans quelque chose que je vais décrire un peu, mais qui est du tout autre. C'est-à-dire que ça ne marche plus. Ce que vous connaissez ne marche plus. Les notions de temps, les notions d'énergie, les notions de je sais pas quoi, de rythme, toutes les lois mathématiques et physiques, le 1 plus 1 égale 2, tout ça, avant, ça ne marche plus, ça n'existe plus, ça ne fonctionne plus. Donc nous, on a du mal parce qu'on se dit, oui, mais attends, 1 plus 1, ça fait toujours 2. Ben, jusqu'à un centième de milliardième de seconde avant, après le Big Bang, oui, avant, non. C'est, on tombe dans, on bascule dans autre chose. Donc la question, c'est qu'y avait-il avant le commencement? Eh bien, la réponse scientifique sur avant le commencement, elle est très simple. Avant le commencement, il n'y avait rien. Ça, c'est la réponse de la science. Il n'y avait rien parce que je ne vois plus rien, je ne calcule plus rien, je ne peux plus rien remonter, il n'y a rien. C'est le néant. C'est-à-dire, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de matière. L'énergie, ben, on ne sait pas d'où elle est. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, pas seulement de tangible, il n'y a rien de rien. Il n'y a rien de rien. Mais parce qu'on est remonté jusque-là. Et qu'après, rien n'est mesurable. Il n'y a plus rien de mesurable. Il n'y a plus rien de visible. Il n'y a plus rien de palpable. Il n'y a plus rien qu'on détecte. Il n'y a plus rien. Donc c'est le néant. Parce que là, avant le commencement, on perd pied. Il n'y a rien de ce que l'on connaît et de ce que la science peut nous faire connaître. D'accord? La matière n'existe pas, il n'y a aucune molécule, aucun objet, le temps n'existe pas, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de fin, l'espace n'existe pas, il n'y a pas de ici ou de là, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de lieu, donc il n'y a rien. Mais en même temps, ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire, c'est que ce rien, finalement, c'est le tout. Finalement, ce rien, c'est le tout. Pourquoi? Donc, en fait, il y a donc ce qu'on ne peut appeler que néant. Mais ce qui est étonnant, c'est que de ce néant va surgir tout ce qui existe. Donc, c'est intéressant. La science nous dit, il n'y a plus rien. C'est, voilà, je ne connais pas. Inconnu au bataillon, je suis incapable d'étudier, de regarder, de comprendre. Il n'y a plus rien qui marche. Nos appareils, ils sont perdus, nos calculs sont impossibles. Non, c'est le néant. Mais de ce néant surgit le Big Bang, l'univers. Donc ça, c'est intéressant quand même. Car avant, il n'y a rien, mais ce rien qui est en fait le tout, puisque ça va bien venir de là, quelque part, n'est en fait rien de ce que l'on connaît. La science ne peut pas démontrer que Dieu existe. Parce que la nature même de Dieu échappe au code et à toutes les lois scientifiques. Mais la science ne peut pas non plus démontrer que Dieu n'existe pas. Alors j'allais dire à chacun de choisir ce qu'il pense de ce rien. Car tout de même, c'est étonnant. De ce rien va sortir tout ce qui existe. On voit donc bien, grâce au progrès des découvertes scientifiques, que l'hypothèse Dieu, je dis bien l'hypothèse Dieu, n'est pas si facile à balayer qu'on pouvait le penser au départ. Hein? Les gens parfois balayent. Mais non, la science a démontré qu'on balaye, on balaise l'hypothèse Dieu. Attends, 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 attends. Regarde un peu ce que la science dit. Et après, quand tu as compris ce que la science dit aujourd'hui, ben, balayer l'hypothèse Dieu scientifiquement, intellectuellement, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Donc moi, j'ai une question. Le plus insensé est-il celui qui croit qu'un Dieu d'une nature totalement différente que tout ce que l'on connaît existe, et que de ce Dieu est sorti tout ce qui existe, ou le plus insensé est-il celui qui croit que tout ce qui existe est sorti du rien, c'est-à-dire du néant. Génération spontanée. Donc pour finir, je voudrais citer quelques paroles bibliques qui nous parlent de la nature de Dieu, puisque on est remonté scientifiquement jusqu'où on peut remonter jusque-là. Et je vous ai donné les théories qui ne sont que des théories, qui n'ont aucune démonstration autre. Donc là, on est dans la science pure cet après-midi. Hein ? On est vraiment dans la science. Mais la science nous amène jusqu'à un certain point, puis après, elle perd pied. Et donc nous, là, on va examiner ce tout autre, ce rien, pour voir un petit peu ce que la Bible nous en dit. Ce rien que nous, on appelle Dieu. Donc, quelques paroles bibliques qui nous parlent de la nature de Dieu. Sachant que les mots humains auront du mal à décrire cette nature du tout autre. Bien sûr, les mots humains ne vont être qu'un véhicule pour parler de quelque chose qui n'est pas véhiculable. De la même façon que la science ne peut pas nous parler de Dieu, elle bloque. D'accord ? Donc, nos mots, c'est pareil, vont être faibles. Mais quand même, n'importe quel mot humain sera trop faible ou complètement à côté pour décrire ce à quoi on est en face, là, ce qu'on rencontre là. Et donc, on va être obligé, pour le comprendre, d'employer quoi ? Des analogies, des images, si on veut décrire ce qu'il y a avant. Donc en fait, là, on ne peut plus vraiment faire appel à l'intellect, puisque l'intellect est dans une logique scientifique. Mais on va être obligé de faire appel au ressenti, à l'esprit de l'homme, au cœur, parce que l'esprit n'est pas quelque chose de matériel, même s'il est greffé sur le matériel dans le corps de l'homme. Donc les premiers mots de la Bible sont « au commencement ». Et ce commencement de la Bible, c'est avant le commencement scientifique, avant le mur de Planck. Et la Bible nous dit au commencement, Dieu. Il y a le roi Salomon qui va nous dire, voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, parce que alors la première nous dit, avant le commencement scientifique, avant la création, avant qu'apparaisse l'univers, Dieu. Totalement là. Bon. Le roi Salomon va nous dire, donc c'est 1 roi 8, 27, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Je trouve que pour quelqu'un qui a vécu, Salomon, c'était environ 900 ans, 1000 ans avant Jésus, donc il y a 3000 ans. D'écrire Dieu comme ça, c'est assez intéressant, je trouve. Parce qu'il dit, moi, j'aurais été Salomon, j'aurais dit, les cieux ne peuvent le contenir. Mais Salomon, il avait une telle révélation de Dieu qu'il savait que dire les cieux ne peuvent le contenir, ça ne suffisait pas pour le décrire. Et donc, il va dire les cieux, et ça, c'est déjà l'immensité énorme, mais il va dire non, ça, c'est trop petit. Les cieux des cieux. Donc imaginez le ciel comme si c'était petit et le ciel du ciel. Donc, et Salomon, waouh, il a fait une telle rencontre avec Dieu que pour décrire Dieu, il va dire, voilà, les cieux, non, les cieux, c'est rien les cieux. Mais les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Donc c'est plus grand encore. Je trouve ça super, super beau. C'est David, son père, hein, psaume 19, verset 2, qui va dire, mais regardez les cieux. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'espace manifeste l'œuvre de ses mains. Donc David va nous dire, ok, Dieu, vous ne pouvez pas le voir. Et Jésus le dira, personne n'a jamais vu Dieu. L'apôtre Jean va le dire. Mais David va nous dire, oui, mais regarde, si tu regardes les cieux, ils vont te raconter quelque chose de la gloire de Dieu. Ils ne vont pas te parler directement de Dieu, mais quelque part de la gloire, du rayonnement, de l'importance, de la beauté de Dieu. Oui, les cieux racontent la gloire de Dieu. Oui, dans Romains, l'Épître aux Romains, Paul en parle. L'espace manifeste l'œuvre de ses mains. Donc on sent ces hommes de Dieu, ces prophètes qui sont en recherche, qui sont aussi dans l'émerveillement, qui sentent bien qu'ils sont dépassés par la chose avec laquelle ils sont en contact, c'est-à-dire Dieu. Et dans Romains 1, verset 20, c'est mon verset suivant, Romains 1, verset 20, l'apôtre Paul va dire, effectivement, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Alors je m'arrête encore sur ce verset incroyable. Donc l'apôtre Paul, c'était il y a 2000 ans. Il nous parle des perfections invisibles de Dieu qui se voient comme à l'œil nu. Alors attends, c'est invisible ou c'est visible ? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil nu. Comment ? Regarde la création. Regarde la création du monde. Regarde les ouvrages de Dieu. Tu auras une petite idée de la dimension, de la beauté, de la grandeur, de l'immensité, de qui est l'inconnu derrière le mur de Planck. L'apôtre Jacques va le décrire d'une façon extraordinaire, comme le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et là, avec tout ce qu'on a déjà dit, ces versets-là, je trouve, ils prennent un relief particulier. Le Père des Lumières, première chose qu'il a créée, la lumière, cette explosion incroyable. Et pour le décrire, Jacques, décrire Dieu, il dit, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est logique, parce que tout changement et toute variation, ou ombre de variation, ça sous-entend le temps. Or, Dieu est hors du temps. Le temps est une création. Dieu est hors du temps. Et Jésus va encore aller plus loin pour nous décrire un petit peu. Il va nous dire, mais Jean 4, 21, en fait, Dieu est esprit. Voilà. Dieu est esprit. L'esprit, ce n'est pas visible. Ce n'est pas palpable. L'esprit, il est hors du temps, etc. Et puis pour nous aujourd'hui, l'apôtre Jean va conclure, je ne l'ai pas noté, par Dieu est amour. Parce que j'ai envie de terminer un peu là-dessus avant qu'on passe aux questions. J'ai deux, trois citations aussi pour le fun après. J'ai envie de dire, parce que si on vous réécoutez ça ou si vous relisez ça, franchement, on perd pied. On perd pied. C'est inimaginable, on peut que se mettre à plat ventre et adorer ou je sais pas quoi, mais c'est on perd pied, vraiment. Et donc, que Jean nous dise dans la bouche de Jésus, Dieu est esprit, oui, mais il nous dit aussi Dieu est amour. C'est-à-dire ce grand Dieu qui nous... C'est, nous dépasser, c'est même pas nous dépasser, c'est... Il n'y a pas de mots. Ce Dieu-là a décidé de nous aimer et de nous inviter à entrer en relation avec lui. Alors j'ai une autre étude qui sera la suite de celle-là, qui est, parce qu'une fois qu'on a montré que la science, en tout cas, ne démontre pas que Dieu n'existe pas, et laisse comme hypothèse très plausible l'existence de Dieu, la question suivante c'est, comment est Dieu ? Quelle est sa nature ? Parce que là on parle, on le commence en disant Dieu est esprit. C'est quoi Dieu est esprit ? Et donc, il y a une étude que je ferai un autre jour, et qui est, quelle est la nature de Dieu ? À quoi il ressemble ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est Dieu, entre guillemets ? Voilà. Mais souvenons-nous, pour aujourd'hui, que Dieu est amour. C'est une invitation à le connaître et à le rencontrer, puisqu'il est le Créateur. Nous qui sommes sa création, nous pouvons malgré tout entrer en résonance avec lui. Nous pouvons, parce que l'homme a été doté d'un esprit, connaître le Dieu esprit. Et ça, c'est extraordinaire. C'est par notre esprit que nous pouvons connaître le Dieu qui est esprit. Et donc, nous, petits humains, bien mécaniques, bien mortels, bien charnels, bien physiques, bien palpables, bien ancrés sur la terre, bien dans notre temps, notre univers, notre rythme, nos âges, notre naissance, notre vieillesse, etc. Donc très dans la création, on a été doté d'un esprit Et cet esprit peut entrer en résonance avec celui qui était avant le Big Bang. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je finis avec deux, trois petites citations. Blaise Pascal, un grand mathématicien français, a dit « Tout homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu ». Blaise Pascal a fait une rencontre extraordinaire avec Dieu, qu'il décrit dans ses écrits. Donc c'était quelqu'un qui vraiment connaissait le Seigneur. Il a dit « Tout homme a dans le cœur un vide que rien ne peut remplir, puisque ce vide-là, il a une forme de Dieu ». Théophile Gautier, un grand poète aussi français, écrivain français, poète, a dit « Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer ». C'est joli. Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Et puis, un grand scientifique dont on a déjà parlé, Albert Einstein, a dit « Le hasard, en fait, c'est Dieu qui se promène incognito ». Voilà, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, voyez que la science ne va pas dire Dieu existe. Et ce n'est pas son rôle, on ne lui demande pas. Mais la probabilité, elle n'est quand même pas si improbable que ça. Dans l'état actuel de la science des 10 dernières années, hein, tout ça, c'est très récent. Donc, tout ça pour dire que, vraiment, en tant que croyants, nous n'avons pas la foi du charbonnier, j'allais dire. La science, alors on n'a pas besoin de la science, on n'a pas eu besoin de cet enseignement pour connaître Dieu. Parce que justement, on a un esprit et que Dieu a touché notre esprit d'une façon ou d'une autre qui nous a amené à lui. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, de pouvoir regarder l'état actuel de la science puis de dire, bon, ben, je suis baba, quoi. Je suis baba et la seule chose qui me reste à faire, c'est d'adorer. Voilà, je n'ai qu'une chose à faire, c'est d'adorer. Et si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, n'a pas encore ce contact avec le Seigneur, ben c'est aujourd'hui qu'il faut s'approcher de lui. Aujourd'hui, on peut le prier. Aujourd'hui, on peut venir à lui puis lui dire, ben, grand Dieu de l'univers, moi, petit moucheron, on ne m'aime pas, quoi. Je viens à toi parce que j'ai envie que tu m'aimes, j'ai envie que tu donnes du sens à ma vie, j'ai envie que tu me guérisses de mes blessures, j'ai envie que tu me fasses vivre avec toi parce qu'avec toi, je suis pour l'éternité. Voilà. Merci. Merci Daniel, tu peux couper.